Badania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Nous sommes en direct du studio 41 de RFI avec Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes. Vous pouvez nous écouter via le réseau mondial de RFI, via les applis mobiles et nous regarder en vidéo sur RFI.fr, RFI Dailymotion et RFI YouTube. Jeudi dernier à Tallinn, en Estonie, lors du sommet européen, Emmanuel Macron a soumis à ses partenaires des propositions ambitieuses pour refonder l'Union européenne. Deux jours plus tôt, devant des étudiants réunis à la Sorbonne, le président de la République avait prononcé un vibrant plaidoyer et détailler sa méthode et son calendrier pour réveiller l'Europe.
Nous ne pouvons nous permettre de garder les mêmes habitudes, les mêmes politiques, le même vocabulaire, les mêmes budgets. Nous ne pouvons pas davantage choisir la voie du repli national qui serait un naufrage collectif. Nous ne devons pas nous laisser intimider par l'illusion du repli. Et c'est en refusant ce mensonge que nous serons à la hauteur de notre époque, de son urgence, de sa gravité. La seule voie qui assure notre avenir, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est à nous, à vous de la tracer. C'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Ayons ensemble l'audace de frayer ce chemin. L'Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop inefficace. Mais l'Europe seule peut nous donner une capacité d'action dans le monde face aux grands défis contemporains.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Vous êtes la ministre des Affaires européennes du plus européen des présidents français depuis François Mitterrand. Il vous facilite les choses, Emmanuel Macron ?
J'ai évidemment la chance d'arriver à un moment historique particulier dans l'Union européenne et à un moment historique particulier dans l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que, en effet, le candidat qui portait un programme résolument et audacieusement pro-européen a été élu par les Français contre une candidate dont on a entendu tout à l'heure pendant le journal son aversion viscérale à l'Europe. Donc évidemment, être la ministre en charge des Affaires européennes d'Emmanuel Macron maintenant, c'est exaltant, c'est exigeant et c'est fantastique.
À mes côtés, pour vous interroger, Eric Scholl, bonjour Eric, le directeur de la rédaction de Courrier International, le partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Et Léo Klim, correspondant à Paris du quotidien allemand, Süddeutsche Zeitung, bonjour à tous les deux. Alors, avant de nous concentrer sur les questions européennes, Nathalie Loiseau, un mot sur Marseille, deux femmes tuées par un homme immédiatement abattu. La piste terroriste est confirmée. Y a-t-il une réponse européenne au terrorisme ?
C'est un défi qui est posé à toute l'Europe. L'actualité s'égrène de semaine en semaine, de mois en mois, et les pays européens sont confrontés à ce défi, à cette barbarie. Vous l'avez dit, deux femmes assassinées lâchement, ce n'est pas la première fois qu'on s'en prend spécifiquement aux femmes. Il ne peut qu'y avoir une réponse européenne coordonnée, même si à titre national, je salue le courage des troupes de Sentinelles qui, une fois de plus, sont intervenues dans ce moment dramatique. Mais on a besoin d'une réponse européenne sur le plan du renseignement, sur le plan du contrôle des frontières, sur le plan des échanges entre les polices. Et beaucoup de choses sont en train d'être faites. L'Europe avance de ce point de vue-là. Il faut que l'Europe sache concilier liberté et sécurité. La sécurité, c'est la première des libertés.
Et ce qui se fait n'est pas forcément spectaculaire. On va revenir longuement sur les propositions d'Emmanuel Macron pour l'Europe, mais avant, Nathalie Loiseau, j'aimerais que nous parlions de la Catalogne et de la situation à Barcelone. Alors aujourd'hui, le gouvernement français condamne la tenue du référendum d'autodétermination par les autorités catalanes ou les violences exercées par le gouvernement de Madrid.
Alors, commençons par l'essentiel. L'Espagne est une grande démocratie et l'Espagne est un allié et un partenaire important de la France. Nous avons toute confiance dans la manière dont le gouvernement espagnol gère ses affaires intérieures. Et face à la tension que l'on observe aujourd'hui, nous ne voulons avoir ni une parole ni un geste qui risque d'aggraver cette tension.
Éric Scholl, Courrier International.
Toutefois, est-ce que vous pensez que la crédibilité du gouvernement espagnol après ces violences, en tout cas au niveau européen, risque d'être entachée vis-à-vis de ses partenaires ?
Nous appelons l'ensemble des participants à cette tension à faire preuve d'esprit de responsabilité pour tout faire pour ramener le calme.
Alors le vote est évidemment forcément tronqué, sera contesté, forcément. Quelle issue voyez-vous à cette crise ?
Ce n'est pas à moi et ce n'est pas au gouvernement français de dire au gouvernement espagnol comment est-ce qu'il doit résoudre cette crise. Nous avons pleinement confiance dans notre partenaire pour le faire.
Une médiation européenne, c'est envisageable, c'est souhaitable ?
Ça n'est pas souhaité par le gouvernement espagnol, à ce stade en tout cas.
Quand on regarde le reste de l'Europe, est-ce que vous pensez que ce mouvement catalan peut faire tache d'huile ? On sait qu'il y a des mouvements séparatistes, il y a des mouvements, il y a des contestations régionalistes, on l'a vu il y a 2 ans en Écosse. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un effet tache d'huile ailleurs en Europe ?
Je considère surtout que face aux défis auxquels nous sommes confrontés, nous venons de parler du terrorisme, mais on peut parler du défi du changement climatique, on peut parler de la nécessité de placer l'Europe en position de force dans la mondialisation. Ce sont des défis de taille continentale qui demandent une Europe toujours plus unie et surtout pas de division, pas de dissémination des forces et des énergies.
Mais il y a quand même, on le remarque en Europe, une vraie tentation au morcellement, à la balkanisation. Il y a les Catalans aujourd'hui, il y a eu les Écossais hier, il y aurait peut-être les Basques demain, pourquoi pas les Flamands, et pourquoi pas les Corses d'ailleurs.
Mais ça, il y a toujours eu des partis qui demandent soit plus d'autonomie, soit l'indépendance. Il y a toujours eu des porte-paroles pour ce genre de tentation, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison et ça ne veut pas dire qu'ils proposent un avenir souhaitable pour leur population. Ça n'est pas parce que ça existe que c'est une fatalité. Vous dites pourquoi pas les Basques demain ? Rien aujourd'hui ne laisse penser que le peuple basque, que ce soit en France ou que ce soit en Espagne, est une tentation de cet ordre.
Éric Scholl, Courrier International.
Dans le scénario très hypothétique, hein, où la Catalogne accéderait à l'indépendance, est-ce qu'on peut imaginer que cette Catalogne indépendante puisse rester au sein de l'Union européenne ?
Alors, si l'on part de la situation d'aujourd'hui, la consultation qui s'est déroulée aujourd'hui est contraire à la Constitution espagnole. Ça signifie une chose, c'est que les résultats de cette consultation ne seront pas reconnus. Donc, quand bien même il y aurait de la part de tel ou tel une déclaration d'indépendance de la Catalogne, cette indépendance ne serait pas reconnue. Donc là, on est en train d'entrer dans une conversation extraordinairement hypothétique.
Mais c'est, gouverner, c'est prévoir.
C'est vrai, mais ça n'est pas forcément s'exprimer sur des situations qui ne sont pas avérées et qui ne reposent sur aucune base légale. L'Europe, c'est un rassemblement de nations démocratiques et qui respectent l'état de droit. C'est d'ailleurs une préoccupation forte que nous avons vis-à-vis de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, ce respect des valeurs et ce respect de l'état de droit. L'état de droit, aujourd'hui, en Espagne, c'est respecter la Constitution espagnole.
Leo Klim, Süddeutsche Zeitung.
Oui, comment est-ce que, dans ce contexte, vous jugez le cas écossais, puisque les Écossais voudraient en fait rester avec l'Union européenne, c'est une des raisons pour lesquelles ils refusent le Brexit. Est-ce que, puisque vous venez de dire que c'est pas les mouvements séparatistes qui ont toujours raison, est-ce que ça s'applique aussi aux Écossais ?
Écoutez, on pourrait dire aussi que Londres a envie de rester dans l'Union européenne parce que Londres a massivement voté pour le Remain et pas pour le Brexit, mais ça n'a pas de sens. Le Royaume-Uni est une entité unique.
Pas de place pour l'Écosse, pas de place pour la Catalogne éventuellement dans l'Union européenne au cas où ?
Alors, d'une manière générale, une entité qui, dans un processus reconnu, deviendrait indépendante, la première conséquence, c'est qu'elle sortirait de l'Union européenne.
Avant d'y entrer éventuellement ?
Avant de commencer un processus d'adhésion. Mais en tout cas, la première réalité, c'est qu'elle sortirait de l'Union européenne.
Et on sait que c'est long, les processus d'adhésion. Pendant la campagne électorale et depuis qu'il est président de la République, Emmanuel Macron insiste toujours sur une Europe qui protège ce qui passe, bien sûr, et peut-être d'abord par des frontières extérieures sûres. Emmanuel Macron.
Les plus robustes des frontières, les politiques de sécurité les plus ambitieuses, ne pourront pas endiguer les migrations qui durent. Seule la stabilisation et le développement des pays d'origine les tariront. Ce qui nourrit les grandes migrations contemporaines, ce sont les inégalités qui se sont installées et les crises qui en découlent. Si l'Europe doit avoir une frontière que nous devons protéger et faire respecter, l'Europe se doit avant tout d'avoir un horizon. Et cet horizon, c'est celui de sa politique étrangère qui se doit d'avoir des priorités claires. La Méditerranée d'abord. Le cœur de notre civilisation, nous lui avons tourné le dos, n'osant pas voir les crises. Or, aujourd'hui, elles jalonnent cet espace. Notre politique commune en Méditerranée et en Afrique doit aujourd'hui se consolider. Mais plus largement, notre politique européenne ne doit plus voir l'Afrique comme un voisin menaçant, mais comme le partenaire stratégique avec lequel nous avons à affronter les défis de demain. L'emploi de la jeunesse, la mobilité, la lutte contre le changement climatique, les révolutions technologiques. Je souhaite que notre partenariat avec l'Afrique soit un élément de la refonte du projet européen.
Il y a donc le long terme avec un changement de regard sur l'Afrique. Et quand on parle à RFI, il y a beaucoup d'Africains qui nous écoutent. Ce qui n'a rien d'évident pour des pays de l'Europe du Nord ou de l'Est. Il faudra des années.
C'est en train de vraiment changer. Ce que vous dites, je l'ai vécu en tant que diplomate. J'ai vécu, travaillé en Afrique, travaillé sur l'Afrique et sur la Méditerranée aussi. Et il y a quelques années, je vous aurais donné raison. Je vous aurais dit, c'est une préoccupation de pays comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie. Et puis, plus on monte au nord, plus on nous dit que finalement, ça n'est pas l'essentiel. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. On l'a vécu à plusieurs reprises. Lorsque Emmanuel Macron a convié à Paris, à la fin du mois d'août, un mini-sommet sur les questions migratoires avec Angela Merkel, avec le président du Conseil italien, avec le président, avec le Premier ministre espagnol, avec Madame Mogherini, on a lancé l'Alliance du Sahel. Et on a travaillé à renforcer l'initiative africaine qu'on appelle G5 Sahel, qui consiste à ce que les pays du Sahel, les armées des cinq pays du Sahel, travaillent ensemble à lutter contre les fléaux auxquels elles sont confrontées. Ces initiatives sont soutenues par l'ensemble des pays de l'Union européenne, qui y voient la bonne réponse à des crises qui ne sont pas des crises lointaines qui concerneraient un autre continent, mais qui sont des crises de proximité immédiate pour nous. Parce que aujourd'hui, la fragilité du Sahel, la fragilité de la Libye, ça a des conséquences directes sur la vie de l'Union européenne. À cause des flux migratoires, bien sûr, à cause aussi de la multiplication des trafics, trafic d'armes, trafic de stupéfiants qui sont rendus possibles par la fragilité des États dans cette partie-là du monde. Donc, plus personne aujourd'hui, autour de la table des 28 États membres de l'Union européenne, ne viendrait dire le Sahel, la Méditerranée, ça ne nous concerne pas.
Alors, il y a donc le long terme avec les propos qu'a expliqué, développé Emmanuel Macron, avec la nécessité d'aider l'Afrique à se développer. C'est évidemment un thème assez récurrent. Et puis, il y a les migrations au court terme, au quotidien à gérer. Comment jugez-vous la situation actuelle? Plutôt en voie d'amélioration ou pas? Ou qu'elle peut être, quelle devrait être la politique européenne en matière de migration?
Alors, il y a eu depuis quelques semaines un ralentissement des flux migratoires venant de Méditerranée centrale, donc essentiellement de Libye. Et il y a maintenant, depuis plusieurs années, un net ralentissement des flux venant de Méditerranée orientale à la suite de l'accord passé avec la Turquie. Tout ceci reste fragile. Fragile parce que les demandeurs d'asile viennent de zones de conflit où rien n'est réglé. Qu'il s'agisse de la Syrie ou qu'il s'agisse de la Corne de l'Afrique, il y a toujours autant de raisons pour des hommes, des femmes et des enfants de fuir des zones de guerre. Et puis, vous parlez de long terme quand vous parlez de politique de développement, mais je peux vous garantir que les efforts qui sont faits sont des efforts immédiats. Le fonds fiduciaire d'urgence qui a été monté à l'initiative de la Commission européenne, c'est déjà 2,5 milliards d'euros pour venir en aide au développement de pays d'Afrique en mettant l'accent sur des projets d'éducation, sur des projets de formation qui permettent de donner du travail à tous ces jeunes qui sont souvent là, la plus dynamique, la plus audacieuse de ces pays.
C'est pas une goutte d'eau dans un océan?
Ça n'est pas du tout une goutte d'eau dans un océan, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'Afrique connaît des taux de croissance impressionnants, mais que cette croissance ne se transforme pas en développement. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille différemment, ça veut dire aussi qu'il faut que les initiatives soient bien davantage coordonnées, parce que, un par un, les États membres de l'Union européenne font beaucoup de choses en Afrique, l'Union européenne elle-même aussi. On a sans doute péché par manque de coordination, par manque d'efficacité, et en ne concentrons pas suffisamment notre aide sur les enjeux d'éducation, de formation et d'accès à l'emploi.
Leo Klim, Sundische Zeitung.
Oui, alors en tant que journaliste allemand, je regarde quelle est la réaction venant d'Allemagne aux propositions d'Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Citer que deux points concrets qu'elle trouvait vraiment intéressants pour avancer, pour l'instant, c'est la défense et les sujets d'immigration, contrôle des frontières. Quand on connaît l'importance du couple franco-allemand pour faire avancer l'Europe, est-ce que en fait, la plus grande probabilité d'avancer en Europe, c'est sur un réflexe défensif, c'est sur l'Europe forteresse.
Alors, je ne partage pas votre lecture de ce qu'a dit Angela Merkel, ni depuis les élections, ni avant. En pleine campagne électorale, Angela Merkel a poussé des initiatives avec la France sur des sujets dont on parlera peut-être plus tard dans l'émission, comme la taxation des GAFA, les sujets sur la réciprocité en matière de politique commerciale, et y compris sur des sujets qui concernent la gouvernance de la zone euro. On peut avoir des nuances, mais l'envie et la capacité à travailler fortement ensemble du moteur franco-allemand de l'Europe, comme on a coutume de l'appeler, sont bien là. Je rajouterais que aujourd'hui même, le patron des libéraux allemands, interrogé sur les propositions d'Emmanuel Macron telles qu'il les a déroulées dans son discours à la Sorbonne, a qualifié Emmanuel Macron, je cite, de cadeau du ciel. Je pense que du point de vue allemand, comme ailleurs en Europe, on peut avoir des nuances sur les priorités ou sur les méthodes, il y a un consensus extrêmement fort sur la nécessité de relancer l'Europe et de la réformer. Et ce consensus-là, croyez-moi, il est historique.
Une question courte d'Éric Scholl, puis une réponse courte de votre part, Nathalie Loiseau.
Pour être très concret, donc Emmanuel Macron a cité de très nombreuses propositions. Il a parlé d'un office européen de l'asile. Il a parlé aussi de la mise en place d'une police des frontières européennes. Sur ces deux propositions, c'est pour quand ?
Alors, c'est des propositions qui sont en réalité déjà dans les esprits de beaucoup. Office européen de l'asile, on a besoin d'harmoniser les procédures et les critères pour l'attribution du statut de réfugié en Europe. Sans quoi, on est dans une situation incohérente, non coordonnée, qui ne permet pas de traiter dignement ceux qui sont en besoin manifeste de protection et qui permet à l'inverse à d'autres de passer d'un pays à l'autre en attendant que leur situation soit régularisée. Donc tout ça, on en parle déjà autour de la table du Conseil européen. Le renforcement de la police des frontières, Frontex est déjà en phase de renforcement, sans doute insuffisant. Il faut aller plus loin, il faut que chaque État membre puisse verser davantage
d'expertise. Donc c'est une question budgétaire aussi.
C'est une question, je dirais, plus de ressources humaines. Il faut être capable de former et de distribuer la ressource humaine spécialisée de telle sorte que, par exemple, des pays de première entrée comme l'Italie ou comme la Grèce soient véritablement appuyés dans leur gestion des frontières extérieures de l'Union.
Nathalie Loiseau, on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète, avant bien sûr de vous retrouver, Nathalie Loiseau, à tout de suite sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, à tout de suite.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours avec Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes. Vous nous écoutez sur le réseau mondial de RFI, mais vous pouvez aussi regarder cette émission sur RFI.fr, RFI Dailymotion, RFI YouTube. À mes côtés, Eric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International, et Léo Klim, correspondant à Paris du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Alors, Nathalie Loiseau, dans la première partie de l'émission, nous avons évoqué un certain nombre de questions d'actualité, comme la Catalogne, par exemple. Je voudrais qu'on revienne sur quelques propositions développées par Emmanuel Macron lors de son intervention à la Sorbonne, c'était mardi dernier. Et le constat du président de la République, c'est que si l'Europe a été la grande aventure politique du XXe siècle, dans de nombreux domaines, l'Europe ne fonctionne pas. Par exemple, la politique fiscale et la politique sociale, on l'attend.
Il faut aller plus loin et construire un véritable projet de convergence fiscale et sociale. Et à ce titre, j'ai deux propositions concrètes. La première sur l'impôt sur les sociétés. Nous avons commencé, mais nous devons accélérer l'harmonisation des bases entre cet impôt. Et entre la France et l'Allemagne, les 4 prochaines années doivent permettre de le finaliser. Nous avons l'opportunité d'une mandature claire. Achevons-le. Mais au-delà, en Union européenne, nous ne pouvons pas avoir une telle divergence des taux d'impôt sur les sociétés. Cette divergence fiscale, elle aussi, nourrit une forme de désunion, désagrège nos propres modèles et fragilise toute l'Europe. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions, là aussi, définir d'ici le prochain budget européen en 2020, une fourchette de taux qui engagerait les États membres. Et le respect de cette fourchette conditionnerait l'accès au Fonds européen de cohésion. Car on ne peut pas bénéficier de la solidarité européenne et jouer contre les autres.
La politique fiscale, Nathalie Loiseau, c'est typiquement un sujet qui fâche, qui fait dresser les cheveux sur la tête des Irlandais, des Hongrois, des Néerlandais, par exemple. C'est pas facile de mettre en place une politique fiscale quand les Irlandais sont à 12%, les Hongrois veulent mettre un nouveau taux autour de 10%, si je crois bien, 9%, et les Néerlandais sont aussi un particule dumping fiscal, qu'on le veuille ou non.
Il faut savoir ce que l'on veut. On a une Union
européenne. Ce que les Français veulent ou ce que les Européens veulent ?
Ce que les Européens veulent. On a une Union européenne qui est d'abord un grand marché unique, qui s'affaiblit elle-même quand les États se concurrencent les uns avec les autres. On ne vit pas dans un vase clos, on vit face à une concurrence mondiale. Le fait d'avoir une pareille divergence, par exemple sur l'impôt sur les sociétés, comme vous l'avez très justement relevé, fait que certains États se livrent à du dumping fiscal et se persuadent eux-mêmes que finalement leur modèle économique repose sur ce renoncement à lever davantage d'impôts. Ce que nous proposons, c'est non pas de punir ceux qui divergent, mais d'encourager ceux qui convergent.
Mais de leur tirer les oreilles quand même.
Mais d'encourager ceux qui convergent. C'est d'ailleurs pour ça que nous voulons commencer par travailler en franco-allemand. Et nous avons commencé à le faire dès le Conseil des ministres franco-allemands du 13 juillet dernier pour harmoniser l'assiette de l'impôt sur les sociétés. C'est une réflexion qui se mène de manière plus large au niveau...
L'assiette, c'est-à-dire sur quoi on impose.
Sur quoi on impose. Et puis, on propose effectivement cette idée de fourchette de taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés.
On a déjà une petite idée de ce que pourraient être les deux extrêmes de la fourchette ?
Écoutez, ce qu'on voit en tout cas, c'est notre ambition nationale de descendre progressivement l'impôt sur les sociétés à 25%, qui quelque part correspond à une moyenne qu'on retrouve aussi ailleurs à travers le monde.
Mais la question qui se pose, en sont loin.
Oui, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est que l'Europe distribue des fonds destinés à une politique de cohésion, c'est-à-dire une politique de convergence. Est-ce qu'il est tout à fait normal que ces fonds soient utilisés et bénéficient très largement à des pays qui décideraient de diverger plutôt que de converger ? Chacun est libre de ses choix. Mais lorsqu'on choisit de diverger, que ce soit sur le plan fiscal ou sur le plan social, on doit dans le même temps renoncer à l'attribution de certains fonds.
Le plan social, on va y revenir. Question de Léo Klim, Süddeutsche Zeitung.
Oui, sur cette question d'impôt sur les sociétés, ça me rappelle fatalement quand même Nicolas Sarkozy qui avait déjà eu la même proposition, la même idée d'harmoniser avec l'Allemagne l'assiette. Et d'une certaine manière, pas sur tous les points, mais j'ai quand même l'impression qu'Emmanuel Macron recycle des vieilles idées françaises. Le gouvernement économique, on en entend en parler depuis longtemps, c'est pas lui qui l'a inventé, la convergence plutôt que la concurrence, et surtout le mot « impôt ». Qui est un mot important en français. Donc, il est beaucoup question d'impôts chez Emmanuel Macron, la taxe carbone, la taxe sur le numérique, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les transactions financières, qui est aussi un vieux serpent de mer français qui doit alimenter la politique du développement. Donc, c'est vraiment un mot magique, et je me demande si c'est une Europe française colbertiste finalement que vous proposez.
Alors, pardon de vous le dire, mais je crois que vous mélangez un petit peu tout. Parce que sur l'impôt sur les sociétés,
on propose quand même comme dénominateur commun.
Il y a un mot commun, mais ça ne veut pas dire qu'on fait la même chose. Sur l'impôt sur les sociétés, nous sommes en train, au plan national, d'en baisser le taux. Et quand nous parlons d'harmonisation de l'assiette, c'est simplement pour essayer de faire un espace fiscal européen commun. Vous avez parlé d'autre chose qui consiste à rechercher de nouvelles ressources propres pour l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients, il y a un consensus sur le fait que l'Europe doit être davantage présente sur un certain nombre de politiques publiques où elle a été soit totalement absente, soit largement insuffisante jusqu'à aujourd'hui. Nous parlions politique de développement, il faut financer cette politique de développement. Et on voit bien qu'à chaque fois que l'on reparle du prochain Fed ou d'un prochain instrument de développement, les États membres sont à la peine en cherchant un peu comment faire. La taxe sur les transactions financières, c'est pas un vieux serpent de mer français, c'est d'abord un instrument national français et c'est un instrument qui est discuté entre une dizaine d'États membres de l'Union européenne qui sont prêts à aller de l'avant et essayer de la mettre en place.
Depuis Nicolas Sarkozy aussi.
Mais ça n'est pas parce que ça a commencé avant qu'il ne faut pas réussir à le faire aboutir. Aujourd'hui, il y a des éléments d'urgence. On parle politique migratoire, on parle lutte contre le terrorisme. Nos compatriotes, partout à travers l'Europe, ont des attentes d'une Europe plus efficace. Une Europe plus efficace, il faut encore qu'elle trouve des modes de financement. Et ces modes de financement, il faut qu'ils soient innovants. Lorsque l'on parle taxe carbone sur les importations dans l'Union européenne, ça n'est pas pour le plaisir d'inventer un nouvel impôt, c'est pour mettre en concurrence loyale les entreprises européennes qui respectent les préoccupations environnementales par rapport à des entreprises d'autres parties du monde où ces préoccupations environnementales ne sont pas prises en compte. C'est une Europe qui protège et c'est une Europe qui répond aux attentes de ses concitoyens. Je rajoute que sur le plan budgétaire, le départ du Royaume-Uni va faire perdre 10 milliards d'euros à l'Europe. On peut masquer le sujet et se dire que finalement on fera comme avant, mais un petit peu moins bien, parce qu'on aura un petit peu moins. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de besoins, et qu'il faut donc trouver des ressources propres à mettre en face de ces besoins. C'est tout simplement ça.
Avant que Eric Scholl vous pose une question sur le numérique et de la difficulté de faire payer un certain nombre de grands groupes, les 10 milliards d'euros en moins que les Britanniques ne verseront pas, c'est une chose, mais finalement pour l'Europe, c'est pas une bonne chose le Brexit ?
Alors, j'ai tendance à penser que c'est une mauvaise chose pour le Royaume-Uni, et que c'est aussi une mauvaise chose pour l'Europe. Ceux qui disent qu'on trouvera une solution gagnant-gagnant, je pense qu'ils vendent de la poudre aux yeux aux uns et aux autres. On sera moins fort à 27 qu'à 28, c'est une évidence.
On sera peut-être plus libre d'avancer en même temps.
Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que le retrait se fasse de manière ordonnée, que cela ne déglingue ni l'Europe des 27, ni le Royaume-Uni. Et lorsque nous nous serons mis d'accord sur les conditions de ce retrait, notre responsabilité, ce sera de créer une nouvelle relation avec un partenaire important qui est le Royaume-Uni. Il faudra que cette relation soit étroite, mais elle ne pourra pas être la même que celle qui lie entre eux les États membres de l'Union européenne.
Éric Scholl.
Oui, vous le disiez, on est à la recherche de nouvelles ressources. Alors il y a cette proposition faite par la France de faire payer ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire ces grandes entreprises, les Google, Amazon, Facebook, Apple. On sait ces entreprises qui arrivent à échapper à l'impôt grâce à des dispositifs d'optimisation fiscale. La France a mis une proposition sur la table basée sur l'imposition sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Est-ce que vous pensez que vous allez rallier suffisamment de pays? Il faut de la majorité, il faut de l'unanimité sur ce sujet. Alors on a un travail de conviction qui a commencé. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est possible d'arriver à convaincre les 28 pays de l'Union européenne?
Alors, c'est pas tout à fait la France qui a mis ce projet sur la table. C'est la France et l'Allemagne, au départ, qui ont commencé à travailler ensemble. Et puis, en fait, c'est une dizaine de pays qui ont signé cette proposition qui a été diffusée au Conseil ECOFIN informel de la semaine dernière. Vous avez raison, en matière fiscale, à traité constant, il faut l'unanimité. Si l'on veut que les 28 États membres aujourd'hui, les 27 demain, adoptent la même réglementation. C'est ce qui nous conduit à plaider en faveur d'une Europe différenciée. Soit on obtient l'accord de tous, évidemment.
Y compris de l'Irlande, par exemple.
Y compris, par exemple, de l'Irlande, et on imagine que c'est difficile. Ceci étant...
Ce ne sera pas facile avec les Hongrois non plus.
Ceci étant, il y a quelques années, on pensait que jamais le secret bancaire ne serait abandonné par quiconque. Et on avait dit à ceux qui travaillaient sur le sujet qu'ils perdaient leur temps et que c'était folie pure. Aujourd'hui, le secret bancaire a profondément évolué, donc il ne faut jamais dire jamais. Mais si l'on veut avancer, on n'est pas obligé, ou on ne peut pas toujours avancer à 28 aujourd'hui, 27 demain. C'est la raison pour laquelle la France plaide en faveur d'une Europe différenciée, où ceux qui veulent aller plus loin forme une espèce d'avant-garde, toujours ouverte, jamais prédessinée à l'avance, et que ceux qui ne veulent pas suivre, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons de préparation économique, n'empêchent pas les autres d'avancer.
On va reparler un petit peu plus longuement de cette Europe à plusieurs vitesses, mais parmi les sujets qui fâchent, c'est évidemment aussi la politique sociale et ses emblématiques travailleurs détachés. C'est vrai qu'avec les migrations mal maîtrisées, le vol fiscal des multinationales, car il faut bien appeler les choses par leur nom, le dumping social, le moins-disant permanent, a fait beaucoup de mal à la perception que les Européens ont de l'Europe, et notamment les Français. Alors vous allez vous rendre en Pologne très prochainement, dans les 48 heures, je crois que c'est mardi, vous allez rencontrer la première ministre Beate Szydlo. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été convaincue par les propos d'Emmanuel Macron.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous ne partons pas sur des positions tout à fait similaires. Mais pour autant, il y a quelques mois, la Pologne refusait toute révision de la directive sur les travailleurs détachés de 1996. Directive dont je rappelle qu'elle avait été adoptée avant l'élargissement aux pays de l'Est. Aujourd'hui, la première ministre polonaise, comme l'ensemble des responsables des pays de l'Est reconnaissent la nécessité de réviser cette directive. On a donc fait faire du chemin aux uns et aux autres. Quelle est notre vision des choses? Nous ne sommes pas hostiles au travail détaché.
Où mettons le curseur?
Nous ne sommes pas hostiles au travail détaché. Il y a autant de Français qui travaillent en Europe sous le régime du travail détaché qu'il y a d'étrangers qui travaille en France en tant que travailleur détaché. Nous sommes particulièrement bien placés pour parler de ce sujet. Ce contre quoi nous luttons, c'est d'abord l'abus, la fraude, le fait que des sociétés, qu'on appelle les sociétés boîte aux lettres, s'installent par exemple en Pologne, mais pas seulement, pour embaucher des travailleurs de deuxième classe. Je les appelle travailleurs de deuxième classe parce qu'ils sont traités comme des travailleurs de deuxième classe. Ils sont envoyés dans d'autres pays d'Union européenne à bas coût, comme si c'était une espèce de fatalité.
Alors, faut s'attaquer
qu'il y avait une Europe low cost qui ne pouvait trouver son modèle économique qu'en acceptant d'être l'Europe de deuxième classe.
Donc ça, il faut s'attaquer à ceux qui, les agences et les officines,
bien
c'est
sûr,
ça
qui sont parfois conduites par des Français. Il faut le dire avec beaucoup de lucidité, il faut être aussi intraitable vis-à-vis de nos ressortissants lorsqu'ils se livrent à des fraudes et à des abus que vis-à-vis des
autres. Mais ça, ce sera aux Polonais de le faire en Pologne, par exemple.
Alors, ce que nous demandons, c'est une coopération entre les États membres au niveau européen et au niveau bilatéral pour pouvoir traiter de ces abus et de ces fraudes. Jean-Claude Juncker a d'ailleurs, dans son discours sur l'état de l'Union européenne il y a quelques jours, proposé la création d'une agence européenne du marché du travail pour lutter contre ces abus. Il y a un consensus sur cette question de lutte contre les abus. Ce que nous souhaitons aussi, c'est limiter la durée du travail détaché, parce que aujourd'hui, on parle de 2 ans pour le travail détaché. Quand vous êtes 2 ans dans un pays autre que le vôtre, vous n'êtes pas un travailleur détaché, vous êtes un expatrié, et vous ne pouvez pas continuer à être rémunérés en ne recevant que les cotisations sociales de votre pays d'origine. C'est une concurrence déloyale contre laquelle il faut absolument lutter. Il faut remettre de l'équité. Il faut évidemment protéger les travailleurs des pays d'accueil. Il faut aussi prendre en considération la situation économique des pays d'origine, des travailleurs détachés. Aujourd'hui, les pays de l'Est, pour faire simple, sont tous avec un taux de chômage extrêmement bas et sont en train d'être confrontés à un déficit de main-d'œuvre. Un vrai déficit de main-d'œuvre et notamment de main-d'œuvre qualifiée. Tous les entrepreneurs et notamment les investisseurs étrangers dans les pays de l'Est se plaignent de la difficulté qu'ils ont à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces pays-là? Ce sont des ouvriers ou des employés d'État tiers qui viennent à des salaires encore plus bas pour prendre le travail des gens des pays
de l'Est. Ce sont les Ukrainiens qui viennent en Pologne alors que les Polonais viennent en Allemagne ou en France.
Il faut qu'on arrête cette logique folle où c'est toujours le moins-disant social qui l'emporte. Ça n'est pas l'ambition européenne. L'ambition européenne, c'est de tirer les États de l'Union européenne vers le haut.
À partir de lundi, vous allez convaincre votre homologue polonaise.
En tout cas, je vais l'écouter, parce que si je me rends en Pologne, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'un grand pays dont je veux connaître et comprendre les priorités, les contraintes, les points d'inflexion, les points où on peut converger. Je vais aussi expliquer, aller à l'encontre des malentendus ou des manipulations qu'il y a pu avoir. Par exemple, dans le secteur des transports, qui est un secteur extrêmement important en Pologne, on a cru pouvoir dire que la France voulait mettre en place une politique protectionniste empêchant les transporteurs polonais de travailler à travers l'Europe. Ça n'est évidemment pas le cas. Ça va mieux en le disant et pour le dire, il faut y aller. Donc c'est pour ça que j'y vais.
Dès mardi. Lors de son discours fondateur sur l'Europe à la Sorbonne, Emmanuel Macron a confirmé sa vision d'une Europe à plusieurs vitesses.
L'Europe est déjà à plusieurs vitesses. Alors n'ayons pas peur de le dire et de le vouloir. C'est parce que ceux qui vont plus vite n'osent plus aller plus vite que le goût même de cette ambition s'est perdu, que les autres les ont regardés avancer pour finir par se dire « ça n'a pas l'air d'être si bien cette avant-garde de l'Europe, ils n'osent même plus se réunir, ils n'osent plus proposer, ils n'osent plus avancer ». Non, allons vers ces différenciations, vers cette avant-garde, ce cœur de l'Europe dont je parlais tout à l'heure, sur tous nos grands défis. Nous devons avancer en accélérant le rythme et en élevant nos ambitions. Aucun État ne doit être exclu de cette dynamique. Mais aucun pays ne doit pouvoir bloquer ceux qui veulent avancer plus vite.
Et dans la voix d'Emmanuel Macron, le premier élément moteur de l'Europe, c'est évidemment la zone euro, qu'il convient d'approfondir par un budget de la zone euro, l'équivalent d'un fonds monétaire européen, un ministre des Finances de la zone euro, voire un parlement de la zone euro. Mais quand les Français parlent de ces quatre sujets, par exemple, les Allemands ne comprennent pas forcément la même chose, Léo Klim.
Oui, certainement. Ou alors, peut-être qu'ils comprennent bien, justement.
Qu'ils comprennent trop.
Voilà. On a déjà évoqué tout à l'heure brièvement les réactions allemandes. Donc Angela Merkel affiche sa bonne volonté. Elle parle d'un haut niveau d'accord entre la France et l'Allemagne. Mais aussi avec Angela Merkel, il faut toujours bien écouter ce qu'elle rajoute et la demi-mesure. Donc elle dit aussi nous devons toutefois discuter des détails. Et bon, c'est dans le détail que qu'est le diable, on dit en allemand.
On le dit aussi en français.
D'accord. Alors le résultat des élections allemandes n'est pas très encourageant, très pro-européen, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que la France va se contenter de l'expression de bonne volonté de l'Allemagne?
Alors, laissons l'Allemagne mettre en place sa coalition et décider. C'est un résultat très pro-européen, le résultat des élections allemandes, tout simplement parce que Angela Merkel reste chancelière et que c'est une grande européenne.
En perdant 7 points. Et avec un parti d'extrême droite
Toujours... vous savez, c'est pas nous qui allons donner des leçons à l'Allemagne sur la présence de l'extrême droite dans la vie politique. Vraiment pas. Il n'y a plus d'exception allemande. On doit le constater. Ça n'est pas une raison pour courir derrière les programmes des populistes, ni en Allemagne, ni en France, ni ailleurs. Il faut aussi se souvenir qui a gagné et pourquoi les uns et les autres ont gagné. Vous citez Angela Merkel. Vous n'avez pas parlé des libéraux, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait une attitude manifestement très ouverte du chef du FDP vis-à-vis de...
Christian Lindner.
Vis-à-vis de, des propositions françaises sur la zone euro. C'est il y a déjà beaucoup de choses dont nous avons parlé avec la chancelière Angela Merkel depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a d'abord un constat, c'est que la zone euro dans son ensemble souffre d'un déficit d'investissement depuis la crise. Elle n'a pas retrouvé son niveau d'investissement de 2007. Nous le constatons tous, l'Allemagne comme la France, comme l'ensemble des États membres de la zone euro. Notre souhait, c'est de mettre en place un instrument qui permette d'aller beaucoup plus loin que le plan Juncker. Le plan Juncker est une bonne chose, mais son niveau est insuffisant pour répondre aux besoins d'investissement dans la zone euro. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Ou bien nous considérons que finalement nous avons passé la crise des dernières années, que elle est derrière nous, que même la Grèce retrouve un niveau de croissance encourageant, et nous en restons au statu quo avec une forme de satisfecit. Finalement, la zone euro a surmonté le pire. Et nous attendons la prochaine crise, celle que nous ne connaissons pas, celle que je ne vais pas prédire aujourd'hui, mais qui peut parfaitement arriver à tout moment, en n'étant pas davantage prêt, en n'étant pas mieux organisé, et en comptant sur notre capacité dans l'urgence à faire un petit peu mieux que ce que nous avons fait. Nous savons que la réponse à la crise était tardive, parfois désordonnée, certainement insuffisante, et clairement insuffisante sur le plan démocratique.
Ces enjeux-là... largement on dira aussi à cause, c'est moi qui le dis, hein, à cause de la chancelière allemande qui n'a pas bougé après la crise financière. Pourquoi est-ce qu'elle changerait de façon de fonctionner aujourd'hui que d'avancer à petits pas ?
Je n'entends jamais la chancelière allemande ni l'ancien ministre des Finances allemand dresser un satisfecit sur la manière dont la crise a été gérée. On est tous capables d'apprendre des leçons de ce qui s'est passé. On a aujourd'hui une circonstance historique assez unique. La France et l'Allemagne auront une stabilité politique dans les 4 ans qui viennent. La zone euro est en ce moment dans une phase de croissance. Elle va plutôt mieux. On peut choisir de réformer la tête froide ensemble, en écoutant les uns et les autres, ou attendre d'être obligé de le faire en catastrophe. Nous, ce que nous proposons, c'est de le faire maintenant.
Éric Scholl.
Est-ce que vous comprenez qu'avec une France dont la dette publique vient de franchir la barre des 99%, frôle les 100% du PIB, est-ce que vous pouvez comprendre les réticences, les doutes, la prudence d'une Allemagne face à une France dont la crédibilité n'est pas encore suffisamment peut-être affirmée sur le plan financier, sur le plan budgétaire ?
J'aurais été d'accord avec vous il y a quelques mois. Aujourd'hui, je n'entends pas ces réticences, ces doutes, ce scepticisme. J'entends un partenaire allemand très engagé à nos côtés. J'entends d'autres partenaires de l'Union européenne qui avaient une très forte attente de France, qui sont heureux de voir la France revenir avec des idées. Mais vous avez raison, pour avoir des idées et pour les mettre sur la table, il faut être crédible. De ce point de vue-là, les engagements pris, les réformes qui ont commencé à être mises en place en France sont évidemment scrutées avec attention par nos partenaires. Ça n'est pas pour faire plaisir à nos partenaires que nous faisons ces réformes, c'est parce que nous en avons besoin, mais ça change complètement la crédibilité de notre discours en Europe, ça c'est une certitude.
Alors on a parlé un peu de politique fiscale, de politique sociale, d'approfondissement de la zone euro, on aurait pu en parler beaucoup plus longtemps, ça suscite, ça a donné envie à Léo Klim de vous poser une question.
Oui, alors Emmanuel Macron a énuméré un très long catalogue mardi avec beaucoup d'élan, beaucoup de passion. Ma question c'est quand on ne sait pas nommer ses priorités, on a du mal à avancer. Donc dans la panoplie de tous les projets qu'on a entendus, quelle est selon vous la priorité ?
Alors Emmanuel Macron n'est pas président de l'Union européenne, il est président de la République française. Il a mis sur la table un grand nombre d'idées. Ce qui est amusant, c'est qu'en général, soit on fait un discours un peu général et on vous dit ça n'est pas assez concret, soit on rentre dans le concret et on vous dit c'est un catalogue. Il a mis sur la table un certain nombre d'idées qu'il a partagées avec ses homologues à Tallinn à la veille du sommet sur le numérique. Elles sont maintenant Chacun va se les approprier. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a pour mission très prochainement de commencer à dresser ce qui devrait ressembler à une feuille de route, et ça va être discuté entre tous les États membres de l'Union européenne. C'est pas la France qui va dicter à l'Europe ce qu'elle doit faire, mais la France est revenue en proposition trop longtemps. On a considéré que parce qu'on était à 28, parce que certains États membres étaient des partenaires difficiles, mieux valait rester au statu quo, proposer le moins possible pour ne pas fâcher. Le résultat, c'est qu'on a créé de l'euroscepticisme, c'est qu'on a créé des attentes non satisfaites de nos compatriotes ici et là. Il était temps de reprendre en main une vraie ambition européenne.
Alors là, vous avez donné une réponse de diplomate que vous êtes. Est-ce que vous
pouvez,
est-ce que vous pouvez nous citer trois priorités selon vous ?
Mais en moins de 15 secondes.
Alors, refaire le discours de la Sorbonne qui a duré 1h40 en moins de 15 secondes, je ne sais pas si j'en suis possible, si j'en suis capable, pardon. Mais travailler sur l'Europe de la défense, travailler sur l'harmonisation fiscale, faire en sorte d'aborder aussi le prochain budget européen en ayant revu les grandes politiques qui sont politiques de l'Union européenne pour faire en sorte qu'elles soient efficaces, qu'elles protègent mieux nos concitoyens, qu'elles soient comprises par tous. Ça, ce sont des priorités, mais il y en a encore beaucoup d'autres.
Merci Nathalie Loiseau d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Eric Scholl, Courrier International, et Léo Klim, Süddeutsche Zeitung. Réalisation vidéo et audio, Guillaume Munier. Sur la page de l'émission, vous pouvez écouter et regarder cette émission. Daniel Esquel, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.